Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion. Des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme promis aux fidèles auditeurs d'Antidote, je vous propose aujourd'hui une nouvelle chronique autour du thème « Divertir pour dominer, la culture de masse contre les peuples ». C'est le titre d'un ouvrage en deux tomes paru aux éditions L'Échappée dont je m'inspire pour ces chroniques. Après ma chronique à propos des séries, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la gamification du monde, ou de la gamification. Je m'appuie pour cette chronique sur l'article de Claire Siegel, Paris, dans le deuxième tome de cet ouvrage. Alors pour ceux qui, contre toute vraisemblance, auraient des connaissances en langue anglaise encore moins bonnes que les miennes, je précise que ce terme de gamification ou gamification vient du terme anglais game, qui signifie jeu, J-E-U. Le jeu est à la mode. Il est de bon ton de présenter les choses de façon ludique, que ce soit à l'école, au travail, ou même dans des conférences, des débats, auxquels on a tout fait de reprocher leur sérieux. Jouer aiderait à mieux apprendre, nous permettrait de ne pas prendre au sérieux, de ne pas nous prendre au sérieux, et pourrait même être, par la socialisation qu'il nécessite, une forme de politisation. Sans remettre en cause l'intérêt du jeu, terme d'ailleurs polysémique qui recouvre des réalités très diverses. Je voudrais ici mettre l'accent sur un phénomène bien particulier, qui consiste en sa récupération par la doxa libérale et en sa généralisation. Je commencerai par une citation, extraite d'une conférence que Gabe Zigerman a donnée en 2012 au congrès Google Tech Talk. Je cite « Les jeux sont la seule force de notre univers actuel qui permettent d'obliger les individus à agir contre leurs intérêts personnels, de manière prédictible et sans utiliser la force. » Ou encore un peu plus loin, les jeux sont l'unique force qui permet d'obliger les gens à agir comme des obsédés sexuels, mais de manière prédictible et sans utiliser une arme. Tout est dit. Alors, la gamification du monde, elle a commencé à se développer dès les années 50 dans les sphères militaires et managériales. Mais elle n'a trouvé une définition adéquate que dans les années 2010. C'est Sébastien Deterding, qui est chercheur dans le domaine de la conception de jeux vidéo, qui a le premier établi une définition qui est devenue commune aujourd'hui. La gamification est l'utilisation d'éléments de conception ludique dans des contextes non ludiques. Dit autrement, il s'agit de la transposition du jeu dans des environnements sociaux ne relevant pas habituellement du divertissement. Alors même si cette ambition de faire de la vie un jeu semble être de l'ordre du fantasme, on aurait tort de prendre en dérision cette gamification, tant le jeu est devenu aujourd'hui un acteur fondamental du libéralisme qui s'impose par l'entremise de l'industrie culturelle vidéoludique, notamment. Permettez-moi de citer quelques exemples. L'un des domaines les plus marquants, mais aussi les plus anciens de cette gamification, c'est celui de la guerre. Dès les années 1970, des laboratoires militaro-ludiques ont vu le jour. Ils ont permis de développer non plus seulement des simulations d'entraînement, mais aussi de véritables interfaces de machines de guerre. La guerre prend ainsi les allures d'un jeu et il est difficile de discerner les limites entre phase d'entraînement et phase d'affrontement. Le pilote de drone, pour prendre cet exemple, entraîné par l'intermédiaire de jeux de simulation, est pris dans un mécanisme de déréalisation de ses actes. La réalité de la frappe létale est dissoute dans la distance et dans l'abstraction du complexe informatique. Le jeu constitue ainsi une stratégie de séduction aliénante, une fabrication du consentement. Le deuxième domaine où la gamification prend de plus en plus de place, c'est celui du travail et du management. Députée dès les années 1950, la gamification du travail a commencé par des mises en situation réelles d'équipes d'employés opposés qui étaient stimulées afin de trouver le plus rapidement possible la meilleure solution. Le manager devient alors un distributeur de fun capable de mieux comprendre ses employés, de mieux conduire ses employés vers la réussite de l'entreprise. le développement des jeux vidéo a ouvert des possibilités de diversification de cette gamification du travail. Pour citer un exemple, en 2009, la firme IBM a développé un jeu qui, sous le nom éloquent de « Total Engagement », permet, selon les dires des dirigeants, d'améliorer la productivité et les compétences de ses employés. Quel que soit l'outil utilisé, le système de jeu a pour objectif que l'employé s'intègre comme un bon joueur au service de son organisme en incorporant et en assimilant les bonnes règles. Les chômeurs ou demandeurs d'emploi ne sont pas en reste et sont également une cible de cette gamification. Des ateliers de recherche d'emploi présentés comme ludiques se sont développés ces dernières années. Je voudrais ici vous faire part de mon expérience personnelle en tant que conseillère en insertion professionnelle. Ben oui, parce que c'est aussi mon travail. Le summum que j'ai pu expérimenter, c'est un jeu appelé l'Escape Game, proposé dans le cadre d'une prestation sous-traitée par Pôle emploi, dans lequel les chômeurs sont mis en concurrence entre eux afin d'être l'élu, et c'est bien le terme utilisé, qui seul aura droit à trouver un emploi in fine. Ce jeu est d'un cynisme à faire froid dans le dos, mais il est pourtant totalement accepté, voire plébiscité par les professionnels qui arrivent à y enrôler leur public, par un jeu malsain de séduction alignante, et là encore, par une fabrication du consentement. Je cite ici l'auteur de l'article. « La gamification au cœur du travail traduit les logiques d'une exploitation susceptible de prendre la forme d'un esclavagisme contemporain qui, par la conception d'un système algorithmique et d'un design utilisateur bien pensé en amont, ne nécessiterait pas l'usage de la violence. » Alors on a vu ces différentes applications de la gamification qui transcrivent l'idéal néolibéral de la gouvernance. Mais il peut y avoir également des applications mises au service d'actions apparemment moins marchandes, de bonnes actions on pourrait dire, dans les champs humanitaires ou environnementaux par exemple. Le jeu devient alors une sorte de directeur de conscience. Par exemple, Weak Art, créé en 2013, est une application où chaque joueur incarne un super-héros du quotidien qui partage ses expériences de nettoyage, d'entraide ou autre à travers un réseau social qui permet de faire gagner des points à sa ville. On peut encore citer l'association Games for Change d'ampleur internationale qui s'inscrit dans une optique humanitaire, jouer pour changer, une optique humanitaire et cherche à valoriser le don, le travail participatif ou encore la prise de conscience des inégalités et discriminations sociales. On retrouve aujourd'hui ces procédés à caractère ludique proposés aussi bien par le milieu associatif, les plans gouvernementaux que des start-up afin d'engager les individus à des actions humanitaires, citoyennes ou écologiques. Le jeu tend alors à remplacer les figures traditionnelles de l'autorité et apparaît comme un ami qui vient aider l'individu à s'améliorer. En fait, la fonction première de la gamification, et ce dans tous les domaines, et de simplifier, d'adoucir, de donner du plaisir, d'introduire une motivation orientée vers la satisfaction immédiate. Ce faisant, elle rend floues les différentes strates de la vie quotidienne. Le travail devient un loisir, l'apprentissage une facilité, la réalité devient virtuelle. En bref, la vie devient jeu. Mais où peut nous conduire une société où le jeu devient un fait social total, où l'ambition des acteurs n'est plus politique ou citoyenne, mais avant tout ludique. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle dévoile ses liens avec l'idéologie capitaliste et néolibérale. En exploitant l'appât du gain, de la récompense, elle réduit le monde à un rapport marchand viscéral fondé sur la jouissance et les sensations. Ce que cache mal cette gamification, ce principe du plaisir immédiat, c'est que, sous une allure innocente, il y a là des procédés de collecte de données et de contrôle. Chaque individu est réduit à un ensemble de paramètres et de valeurs qui servent à mieux le comprendre pour mieux le conditionner. Je termine cette chronique par quelques lignes tirées de cet article. Sous le masque du jeu, et en particulier du jeu vidéo, qui incorpore ses pratiques dans des systèmes informatiques desquels il est difficile de dévier, se révèle un despotisme que Tocqueville identifiait déjà en 1840 au sein de la démocratie américaine. Plaisir et jouissance de petites récompenses à court terme anesthésient les consciences et infantilisent les individus. Le jeu au service du capitalisme permet d'amollir la masse, de la contrôler par le moyen de faibles réjouissances, de divertissement. On est bien loin des idéaux d'autonomie et d'émancipation. Et on se rapproche du tititainment dont je vous parlais dans ma chronique sur les séries. Je vous laisse méditer tout ça et vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique. À bientôt.